Débat et controverse sur BFM Business. Les experts avec Laure Clauzier.
9h07 sur BFM Business. Les experts, on est ensemble et en direct jusqu'à 10h. Trump, always chicken out, taco. C'est ce que nous a révélé le Financial Times. Trump qui recule toujours car c'est une poule mouillée. Apparemment, ça serait un nouvel axiome boursier. C'est ce que raconte le journal anglo-saxon. Ça lui aurait pas beaucoup plu à Donald Trump. Du coup, doublement des taxes douanières sur l'acier et l'aluminium. Quand on doit mettre 50% de taxes sur un secteur pour se protéger, c'est quand même qu'il y a a priori un problème. On va en parler avec nos experts. Évidemment, on va parler de la loi Fast Fashion. Après avoir été votée à l'Assemblée nationale en mars 2024, elle doit être votée au Sénat cette semaine. L'amendement vise à resserrer le spectre d'application de la PPL en ciblant la mode ultra éphémère, c'est-à-dire l'ultra fast fashion. Alors, qu'est-ce qu'on met derrière ce mot? Est-ce qu'il y a des acteurs plus dangereux que d'autres? Est-ce qu'il faut réglementer le nombre de colis? Est-ce qu'il faut uniquement agir sur le signal prix? On parlera aussi du lobbying XXL qui est mis en place Shein, qui considère que la mode est un droit et pas un privilège. On parlera évidemment fiscalité avec toujours la recherche d'économie. Il nous faut 40 milliards. Est-ce qu'il faut mettre en place l'année blanche? Est-ce que c'est une bonne idée pour réduire les déficits? C'est une idée simple. Hein. On bloque les dépenses au niveau de 2025. Et puis toujours et encore la TVA sociale, notre sujet de débat désormais quasiment quotidiennement. On en parle. Est-ce que c'est la solution pour libérer le travail? On verra ça avec nos experts que je vous présente. Leonidas Calogéropoulos, bonjour.
Bonjour.
PDG de Médiation et Arguments, délégué général de l'Open Internet Project, fondateur des Entrepreneurs pour la République, la place de marché des solutions d'entrepreneurs aux enjeux du pays. À côté de vous, Stéphanie Delestre, bonjour. Vous êtes la fondatrice de Volubile, une IA générative vocale pour accélérer les ventes. Vous êtes auteur de La rage d'entreprendre, des HLM de Vitry au sommet de la tech, le parcours et les conseils d'une femme d'affaires. En face avec nous, Benjamin Coria, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de sciences économiques à Paris 13, membre du comité d'animation des économistes atterrés. Vous êtes auteur du Bien commun, le climat et le marché, réponse à Jean Tirole. C'est aux éditions Les gens qui libèrent. Vous êtes aussi auteur de La pandémie, l'anthropocène et le bien commun. C'est aussi aux éditions des liens qui libèrent. Je lis tout parce que Nicolas Dose dit qu'il faut tout lire. Donc je dis
et
tous
Nicolas
les
Dose
livres.
Nicolas Dose est notre maître à tous.
Exactement.
Même il le salue. Nicolas Dose, il lit pas tout ça en général.
Lui-même ne lit pas tout.
Il fait une partie. Il fait ça très bien, hein, mais il fait qu'une partie.
Non, mais il est bien, il revient jeudi, vous inquiétez pas. On va commencer avec les droits de douane, ces nouvelles menaces de Donald Trump. Désormais, il veut mettre 50% à nouveau sur l'acier et l'aluminium. Comment vous interprétez ces va-et-vient, Leonidas?
D'abord, c'est erratique et c'est une stratégie du chaos. Cela dit, 50% de droits de douane, on va parler ensuite de Shine et de la protection éventuelle de notre industrie du textile. Il n'y a pas de tabou non plus sur les douanes, sur les droits de douane. Je sais bien que le culte libéral de la concurrence internationale, c'est qu'il n'y en aurait pas du tout. Mais à un moment donné, les droits de douane, ça peut être un instrument. À 50%, je trouve ça absurde. Alors, 145%, c'est encore plus absurde. Mais ça peut être un élément correctif lorsqu'il y a des déséquilibres de marché qui deviennent considérables et quand de surcroît, on s'impose dans un certain nombre de pays des règles environnementales, sociales.
Donc il n'a pas tort, en fait.
Je pense qu'on n'a pas tort d'intégrer dans la réflexion économique mondiale l'instrument des droits de douane comme étant un paramètre. On reviendra tout à l'heure sur la question des colis qui viennent de Chine où il y a zéro droit de douane sur les.
Mais vous dites qu'il faudrait
colis.
Faire pareil alors.
Je dis pas,
les secteurs qu'on voudrait protéger.
Non, je dis simplement que il y a une différence entre l'outrance de la méthode Donald Trump, qui est de balancer des droits de douane à plusieurs dizaines de multiples tous les matins de façon erratique, et le fait de poser la question des droits de douane comme instrument de régulation dans un marché international qui a quand même perdu ses repères et dans lequel on ne sait plus très bien distinguer ce qui est de la concurrence stimulante et vertueuse et ce qui est de la concurrence déloyale. Et face à de la concurrence déloyale, je pense que les droits de douane sont effectivement un instrument vertueux.
Benjamin Coria.
Alors, je suis pas en désaccord avec ça. On va y revenir. Mais il y a un point, moi, que je voudrais souligner, parce qu'il se trouve que j'étudie ces questions depuis fort longtemps. Le grand événement, en fait, de la séquence qu'on vient de vivre, livre, c'est la décision du Tribunal international de New York. La décision qui annule les droits de douane. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas du tout une décision comme une autre. Dans la Constitution des États-Unis, les questions de commerce extérieur, surtout pour ce qui concerne des tarifs généraux, hein, du genre 145% surtout, etc., ne relèvent pas du président. Ça relève du Sénat. Alors c'est pas une lubie du Tribunal international du commerce, c'est la Constitution des États-Unis. C'est-à-dire que lorsqu'on a constitué les États-Unis avec les États du Nord, qui étaient protectionnistes parce qu'ils voulaient s'industrialiser, et les États du Sud, qui étaient libre-échangistes parce qu'ils exportaient du coton et leur monnaie, c'était la livre, la condition pour faire les États-Unis, c'était que les questions de commerce ne soient pas entre les mains du président, mais entre les mains du Sénat.
Et donc, vous croyez que les juges vont pouvoir arrêter la
stratégie? Je pense qu'il est quasiment impossible que les juges approuvent que le président s'approprie la possibilité de fixer la politique générale des droits de douane. Je dis bien, par exemple, les droits de douane réciproques. Des droits de douane sectoriels, c'est une autre affaire. Il y a des textes qui lui permettent, en particulier, Emergency Act, etc. Mais, comment dire, le secrétaire, il faut bien comprendre, hein, le secrétaire d'État au commerce, hein, ne rend pas compte au président, il rend compte au Sénat. C'est un salarié, si j'ose dire, du Sénat. Et il fait ce que le Sénat lui dit de faire. Bon, d'ailleurs, il y a eu une petite séquence qui a été diffusée à un moment sur X, où on voit le secrétaire d'État au commerce maltraité par un sénateur démocrate qui lui dit « Alors, vous n'êtes pas au courant des décisions qui ont été prises. Mais vous êtes qui? Vous êtes qui? Vous êtes quoi? Vous connaissez la Constitution des États-Unis ? » Bon, voilà. Donc,
mais tout ça pour dire que ça ne va pas se faire ?
Comment ?
C'est-à-dire que du coup...
Alors,
parce que moi, j'ai compris que ça avait été bloqué, mais qu'en fait, non.
Non, pour le moment, la décision qui a été prise par la Cour d'appel, c'est en attendant qu'il soit statué sur le fond. Ce n'est pas révoqué. C'est provisoirement suspendu. Bon, donc il y a toutes les chances, à moins que la Cour suprême n'inverse l'état de droit, mais c'est énorme, hein, parce que ça veut dire que la Cour suprême va contre l'ensemble des États qui, aussi bien au Nord qu'au Sud, s'étaient mis d'accord sur le fait que... Bon, voilà.
C'est-à-dire que pour faire sa politique sur les droits de douane, il faut qu'il revoie la Constitution.
Donc il va y avoir des suites sur les droits de douane réciproques, c'est-à-dire généraux. Sur les droits de douane particuliers, bon, je reviendrai peut-être tout à l'heure, je suis pas en désaccord avec ce que vous dites. La question des droits de douane doit être débattue comme un instrument de politique économique, de politique industrielle. Alors, il faut faire attention à ce qu'on fait.
Bien sûr.
Mais il faut pas exclure cette question. Je suis parfaitement d'accord avec vous.
Et vous avez raison, il faut faire attention à ce qu'on fait. Et là, à l'évidence, la main de Trump ne tremble pas.
Stéphanie Delestre.
Écoutez, en tant que chef d'entreprise, la difficulté que vous avez évoquée, c'est que ça change tous les jours, quoi.
Oui, c'est ça.
Voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est que on se met un petit peu en retrait et on attend de voir ce qui se passe. Et c'est une position qui est insupportable, et pour les chefs d'entreprise, et pour les collaborateurs, et pour notre économie.
Quand vous dites en retrait du marché américain, c'est-à-dire que vous dites j'investis pas, je...
En retrait du marché, en retrait surtout de prendre des décisions. Parce que on peut être amené à changer de décision quasiment dans la journée, donc c'est impossible, impossible.
Je suis totalement d'accord avec ce que vous dites. On peut avoir des variables de 2-3% sur lesquelles on se dit je prends mon risque, mais à 50% personne ne prend de risque. Enfin, les montants annoncés, les montants balancés,
quelle
est l'humeur de la matinée du président américain. Je trouve que ce sont deux sujets différents. Le sujet des droits de douane en lui-même, je trouve, est un sujet qui, à juste titre, doit être posé comme instrument de régulation économique. L'outrance de chiffres balancés de cette façon-là à travers la planète tous les matins...
Échanger tous les deux jours.
Stéphanie Delestre, justement, vous disiez en tant que chef d'entreprise, est-ce que sur la partie dérégulation, par exemple, sur la partie désormais ça va un peu être le Far West, les meilleurs vont faire du business et puis on sera dans une économie de bulle et puis chacun va faire ce qu'il veut, ça vous excite pas en tant que chef d'entreprise en vous disant c'est une nouvelle ère du business qui s'ouvre?
Alors,
on entend ça, plutôt en off qu'en on, mais on a beaucoup de chefs d'entreprise qui sont très excités à l'idée que aux États-Unis, on va pouvoir faire du business tranquille et que toutes les règles vont sauter.
Mais alors, c'est pas le cas.
Ouais, voilà. J.P. Morgan disait les patrons dansent dans la rue. Je veux dire, donc vous voyez, c'est qu'il y a quand même cette idée.
Ils dansaient dans la rue, c'est-à-dire que à partir du moment où il y a eu le retrait des régulations sur la finance, à partir du moment où il y a la confirmation des crédits d'impôt monumentaux, etc. Alors ils dansaient dans la rue. Mais quand ils ont vu comment ils géraient en particulier cette question des droits de douane par rapport à sa base populiste, les bourses ont chuté.
Mais on a repris quand même, depuis.
Oui, mais elles ont repris parce qu'il a fait machine arrière. Mais maintenant qu'il reprend son cirque, on va voir qui va danser dans la rue. On va voir.
Et puis nous, surtout, ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe en France. Or, en France, on n'a pas du tout les mêmes armes, on n'a pas du tout les mêmes règles. Donc aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que on nous parle toujours d'impôts. On va aussi en parler tout à l'heure. On nous parle d'impôts, de taxes supplémentaires. On nous parle pas d'économie. On nous parle tous les jours aussi. Comme Trump, hein. Mais tous les jours, il y a une nouvelle proposition de loi qui risque de nous tomber sur le nez. Donc en fait, encore une fois, oui, Trump participe grandement à la déstabilisation du monde et de la France économique, mais la France également et l'Europe encore plus.
Climat d'incertitude globale.
Oui, et puis encore une fois, moi je vois aucun signe de l'Europe ni de la France pour protéger nos fleurons. Si on parle d'aéronautique, si on parle d'automobile, si on parle d'énergie nucléaire, où on sait que on est les leaders mondiaux sur ces sujets-là, il se passe rien, voire même on continue encore de nous faire des menaces de faire trembler ces secteurs, alors que ce sont des secteurs dont on a besoin, en particulier pour l'emploi, quoi.
Non, je rajoute encore autre chose qui va tout à fait dans le sens de ce que vous dites, qui est que la mesure envisagée par Trump dans le cas où l'Europe actionnerait des mesures de protection, hein, de rétorsion minimum, mais qui en l'occurrence sont vous avez vu ce que c'est. C'est une augmentation de l'imposition sur les investisseurs étrangers, depuis celui qui détient une action Apple de 5 à 20%. Ça veut dire que c'est exactement le contraire de l'incitation à venir s'installer aux États-Unis. Oui. Donc je veux dire, on est en plein carnaval. Alors ceux qui dansent dans la rue, ceux qui croient faire des affaires dans ces conditions, bravo! Bravo! Mais oui, c'est le carnaval. On danse à carnaval.
Mais je ne crois pas du tout au carnaval parce que la condition pour qu'il y ait un essor entrepreneurial, c'est qu'effectivement, il y ait de la visibilité et de la stabilité. Or, c'est du chaos quotidien. Sur cette question de sanctions, parce que c'est une sanction de dire qu'on va taxer de 5 à 20% les investisseurs qui viennent de pays qui ont...
Tous ceux qui font du revenu aux États-Unis, hein, c'est
pas
ça.
Seulement tous ceux... Non, mais tout à fait. Tous ceux qui ont du revenu et qui sont liés à un État qui prend des mesures de rétorsion sur le numérique. Ça veut dire que ce sont des sujets que je suis prêt avec l'Open Internet Project, qui est positionné sur la lutte contre les abus de position dominante des GAFAM. Les abus auxquels nous faisons face, qui sont le fait de délinquants multirécidivistes, pour ce qui est de la concurrence déloyale, c'est le cas de Google, c'est le cas de Microsoft sur le bundling, ce sont des gens qui vont devant toutes les autorités de la concurrence payer des amendes, que ce soit à l'échelle européenne ou des États membres, ou d'autres États, d'ailleurs même aux États-Unis. Ce sont des acteurs qui refusent les lois de la concurrence loyale, la concurrence équitable. Ces acteurs-là, heureusement qu'on a des armes de riposte, heureusement que l'on a pris le DSA et le DMA pour riposter. Si le fait de riposter, le fait de contenir leur propension à abuser de leur position dominante donne lieu à des ripostes douanières ou à des ripostes de fiscalité, ça veut dire qu'en somme, on est en train de prendre la mesure de ce que nous avons comme relation avec les États-Unis. Ce n'est plus un partenaire, c'est un État qui assume d'être en soutien des abus de position dominante et donc des violations des règles.
Il considère que c'est des taxes, hein, Donald Trump, que c'est des taxes comme les autres.
Non, mais il a clairement désigné les pays qui prennent des mesures de rétorsion contre les acteurs dominants du numérique qui, effectivement, abusent de leur position dominante. Mais ça veut dire que on a un État qui vient en soutien de délinquants économiques.
Absolument.
C'est extrêmement grave et je pense que ça donne aussi la mesure de la relation. Elle n'est pas véritablement Trump est tout rancier dans une tendance que nous connaissons depuis une dizaine d'années. Il est finalement en train d'assumer politiquement ce que nous avions comme comportement économique de la part de GAFAM depuis au moins une bonne dizaine d'années, si ce n'est plus.
Voilà, est-ce qu'il faut qu'on fasse pareil sur notre industrie textile, qu'on mette des droits de douane en place pour pouvoir sauver le Made in France de ce qu'il en reste de l'industrie textile, c'est-à-dire quand même pas grand-chose hein, dans,
alors,
dans le Made in France.
Alors, il y a des mouvements de réindustrialisation qui existent en matière de textile
ouais,
en France.
C'est dur, hein, quand même.
Ils sont balayés et sans aucun lendemain si on laisse libre cours à ce que font Shine et Temu en France. Qu'il y ait une riposte, et encore une fois, une riposte, personne n'a parlé des 50% de droits que pratique Donald Trump sur différentes matières, ou les 50% sur l'aluminium ou sur l'acier. Il s'agit de mettre des droits de douane minimaux.
Là, on parle parfois de 2 euros par colis.
Oui, enfin, il n'y a pas mort d'homme.
Pour payer les douanes.
Pour payer les douanes, et on est en train de parler de colis qui, aujourd'hui, sont exonérés de tout droit lorsqu'ils ont un montant de moins de 150 euros. Et on est en train de parler également de marques qui réalisent à peu près 7000 nouvelles références par jour, c'est-à-dire une déferlante qui est absolument, c'est un cataclysme. Donc, ouais. On met un frein au cataclysme, c'est une réaction nécessaire, et je sais qu'il y avait l'idée que Bruxelles serait capable de prendre quelques mesures sur les colis d'ici 2028, il faudrait attendre. On n'attend pas 2028 quand la maison est en train de brûler. La mesure, elle est nécessaire, elle est immédiatement nécessaire.
Benjamin Correa.
Oui, on retrouve le sujet antérieur. L'Europe se prend au piège de ce qu'a été sa politique de favoriser le consommateur à tout prix, politique de la concurrence à tout craint, zéro politique industrielle. Vous vous rappelez, moi je suis un peu plus vieux que vous, mais l'affaire Airbus de Havilland, c'était un constructeur vraiment complètement marginal que Airbus voulait absorber. On dit, surtout pas. Donc, empêcher absolument. Bon, voilà. Alors, la vraie question, c'est ce sur quoi et l'Europe et l'OMC a freiné les quatre fers pendant 30 ans, à savoir des normes environnementales et sociales qui garantissent à la fois le bien-être et la protection de la planète, s'avère aujourd'hui plus que jamais nécessaire.
Et c'est la taxe carbone ou c'est autre chose ?
La taxe carbone pourrait en faire partie, mais c'est autre chose. Ça veut dire aussi que si on n'a pas, par exemple, ce qui est en jeu derrière Shine, c'est que ça coûte moins cher de jeter que de réparer. Ça pourrait être introduit sur des critères de durabilité pour du commerce équitable, sans parler, évidemment, et c'est encore plus important, des normes sociales de production des biens. On peut pas accepter la concurrence des prisonniers des bagnes contre des salariés qui bénéficient de la sécurité sociale.
Je sais, mais
c'est
les gens veulent des t-shirts à 2 euros. Alors,
Veulent des t-shirts à 2 euros, encore faut-il qu'ils aient un emploi. Et s'ils n'ont plus d'emploi,
évidemment.
Ce n'est pas soutenable.
Évidemment.
Pour qu'ils aient un emploi, on ne peut pas accepter d'avoir mis des normes sur notre propre économie et d'accepter que ces normes deviennent un désavantage concurrentiel en notre défaveur et en faveur d'une concurrence qui passe outre toutes les règles environnementales et toutes les règles sociales.
Stéphanie Delestre. Moi, en fait, ce qui me stupéfait, là encore, c'est qu'on parle beaucoup du textile. Or, moi, depuis que je suis toute petite, et ça fait très très longtemps, des dizaines d'années, on m'explique qu'il n'y a plus de textile en France.
Il y en a très peu.
Je dis pas qu'il en faut pas, attention, et je dis pas qu'il faut pas le protéger.
C'est facile, elle est partie déjà.
Voilà. Mais en pareil, on le dit tous, on est tous d'accord, je pense que pour que la France garde son modèle économique, social, il nous faut des emplois. Or, ces emplois-là, on a des secteurs entiers où, encore une fois, je le répète, mais pour moi, c'est super important, où on est leader. Et pourtant, on fait la même chose, on commence à massacrer ces secteurs-là. Alors, quelquefois pour des normes environnementales, d'autres fois pour des normes sociales, etc. Mais encore une fois, qu'est-ce qu'on se dit là-dedans ? C'est que l'Europe est un continent extraordinaire où il y a des consommateurs, justement, qui quand même ont beaucoup d'argent quand on les compare au reste de la planète, hormis les États-Unis. Et pourtant, on fait tout, quand je dis on, c'est l'Europe qui nous impose des règles qui ne sont plus, ni logiques, ni équitables, quoi. quoi, pardon. Et donc, encore une fois, ce qui se passe sur Chine, quand même, alors, moi, j'ai découvert, c'est un quart des colis à la poste.
Mmh. Oui, c'est
un quart des colis à la poste. Donc, pourquoi les gens achètent?
Déferlante.
Pardon, là, je reviens à un chef d'entreprise. Nous, notre job, hein, de toute façon, c'est soit nos produits sont achetés parce qu'on a les meilleurs produits, parce qu'on a les meilleurs prix, parce qu'on a un bon marketing, etc., soit ils sont pas achetés. Donc, pourquoi les gens font ça?
Parce que c'est pas
si merdique que ça, je suis désolée de le dire. Hein. Moi, j'achète, j'achète pas la fast fashion, j'ai jamais acheté sur Temu ou sur Shein, mais j'achète chez Zara, j'achète aussi sur des marques françaises. Mais donc, pourquoi j'achète là? Bah parce que ça tient la route, parce que c'est vrai que ça change régulièrement, c'est vrai que c'est pas si cher que ça, c'est vrai que...
Donc quand je vais vous dire, je vais vous mettre une taxe et puis vous allez arrêter de vous acheter les t-shirts que vous voulez, vous allez pas me dire la France met des normes insupportables.
Bien sûr que oui.
Vous dites quoi, laisser le consommateur tranquille?
Encore une fois, non, faut pas laisser le consommateur tranquille, parce que moi je pense que ce qu'il faut avant tout... Plus que tout, c'est protéger l'emploi, quoi. C'est-à-dire que un papa ou une maman qui perd son travail, c'est une famille détruite derrière. C'est des grands-parents qui vont être capables. Peut-être avec leur petite retraite, si eux ils ont une petite retraite, de mettre au pot, etc. Donc en fait c'est protéger l'emploi. Mais donc là on sait qu'on a un secteur, pardon, mais qui est pas si fort que ça en France.
Non, mais qui essaie de remonter la pente.
Et qui essaie de remonter la pente.
Avec les forces françaises de l'industrie, avec Origine France Garantie.
Exactement. Exactement.
On est en train d'avoir véritablement des filières qui réinvestissent dans le textile et qui refont toute une conquête de secteur par secteur et tous les sous-traitants mobilisés. Et quand ils voient cette déferlante arriver, ils disent mais finalement.
Bien
on
sûr.
Est en train
mais vous croyez
briser.
Vraiment que les gens vont se
mais
mettre
donc,
à acheter
faisons-le
des
pour tous les secteurs.
Non,
faisons-le pour tous les secteurs.
Je ne crois absolument pas dans le fait de dicter aux consommateurs ce qu'ils seraient supposés acheter parce que ce serait conforme à un modèle que l'on aurait décidé pour lui. Il est absolument indispensable que nous soyons performants, que nous soyons à l'écoute des consommateurs et que l'on se rénove et que l'on modifie notre vision de l'économie. En revanche, pour donner sa chance à ce mouvement de réindustrialisation, encore faut-il qu'il n'y ait pas ce raz-de-marée. Ce raz-de-marée est disproportionné. Ce raz-de-marée submerge tout. Il faut le stopper.
Vous ne bougez pas, on continue de parler de la fast fashion. Dans un instant, les experts, on revient.
Débat et controverse sur BFM Business. Les experts avec Laure Clausier.
9h31 sur BFM Business, les experts avec Léonidas Kalogeropoulos, avec Benjamin Coria, avec Stéphanie Delès. On était en train de s'écharper sur la loi fast fashion. Est-ce que c'est le seul juge de paix, cette loi qui a été votée à l'unanimité à l'Assemblée nationale en mars 2024 et qui doit être votée au Sénat? Benjamin Coria, tout le monde lève la main. Oui. Ce débat énerve tout le monde.
Non, il passionne.
Ouais. Benjamin, votre point de vue et après je reviens à Léonidas.
Alors, mon point de vue, je vais dire quelque chose de fond. Lorsqu'on a constitué l'Union européenne et qu'on avait donc des barrières douanières dans les différents pays, des monopoles nationaux, etc., on a tout joué sur la politique de la concurrence. Et c'était pas faux. C'est-à-dire que si on voulait faire un marché européen, il fallait absolument tout casser. Bien. On l'a fait. Le problème, c'est qu'on s'est pas arrêté et qu'on a continué, y compris dans l'ouverture internationale, et qu'on a tout basculé du côté du libre-échange, de la libre ouverture, de la libre circulation des marchandises, etc. Et donc, l'équilibre entre protéger l'emploi interne, protéger l'industrie interne, et le prix, a totalement basculé du côté du prix. Pour des raisons historiques lourdes, hein, je répète, et on n'avait pas tort de le faire. Si on voulait faire l'Europe, c'était ça qu'il fallait faire. Le problème, c'est qu'à un moment, il fallait s'arrêter et retrouver un équilibre, et retrouver un équilibre entre l'emploi, l'industrie et le prix.
C'est un peu compliqué, on a fait tout consommateur.
On l'a pas fait, donc on est face à la déferlante. Mais il n'est pas trop tard, ça veut dire que autour de ces questions réglementation à la fois sociale et environnementale, il est possible de réavancer des feux pour progressivement réintroduire cet équilibre. Voilà le point où on en est. Le cas de la
fast
fashion.
C'est pas trop tard, dit Benjamin.
Non, c'est pas trop tard.
Oui.
Le cas de la fast fashion est, exemplaire,
emblématique,
du raz-de-marée, mais ça se pose dans beaucoup d'autres domaines. Occupons-nous de rééquilibrer les choses, surtout face à Trump, qui lui est un bulldozer.
Mais c'est très important ce que dit Benjamin Coria, parce qu'effectivement, il y a eu l'idée que l'Union européenne, la Commission européenne, avait comme principale mission de discipliner les États, voire de faire plier les États membres. Alors que nous avons conçu l'Europe pour nous défendre du reste du reste du monde, et nous n'avons absolument pas joué cette deuxième mission. Il y a eu des obsédés à la Commission européenne de la discipline imposée aux États pour les faire plier. Or, leur dogme, c'était qu'effectivement, il fallait écouter le consommateur, que le consommateur allait bénéficier de ce qu'il y avait de mieux en termes de prix de venant de toute la planète. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup, avec toute l'amitié que j'ai pour lui, qu'à ce jour, on puisse avoir ce débat avec Jean-Marc Daniel, qui régulièrement, tous les matins,
défend le consommateur.
Mais le consommateur, il n'est pas né consommateur. Le consommateur, il peut être consommateur.
Il devient consommateur.
Parce qu'il devient, grâce à son travail, et pour avoir un travail, encore faut-il qu'il y ait des industries, qu'il y ait des entreprise, et que l'on n'ait pas cette autre idée absurde qui a miné notre économie nationale, qui est la faiblesse, l'entreprise sans usine. Et donc, on est des espèces de machins éthérés qui vivons de subventions versées par un État qui est au bord du précipice économique parce qu'il n'a plus d'argent, parce qu'il n'a pas assez de revenus. Et on a démoli les emplois qui permettraient de remettre notre édifice économique sur ses pieds. Il faut tout reconstruire. Mais on ne peut pas tout reconstruire quand on est exposé à la tempête.
Mais vous me parlez de l'Europe, vous dites c'est l'Europe qui a poussé à mettre le consommateur au centre de tout. Mais enfin, vous déresponsabilisez un peu le politique qui adore faire des chèques dès qu'il y a un problème.
Non, mais
la crise énergétique, le Covid, les gilets jaunes.
Le politique en fait partie et fait partie de cette doctrine globale qui est
le pouvoir d'achat, c'est quand même un thème dans les campagnes électorales.
Vous savez,
très
on
fort.
Est un certain nombre, je crois qu'on est beaucoup d'entrepreneurs et ils sont très nombreux, ils se réunissent, il y a le MEDEF, il y a les mouvements patronaux, je citais tout à l'heure les forces françaises de l'industrie, Origine France Garantie, on est dans cette idée de la nécessaire réindustrialisation, c'est une aventure. Et cette aventure-là, elle doit impérativement, pour se donner une chance de réussir, mettre un peu, je ne dis pas des droits de douane à 50%, encore moins à
45%. Mais il faut faire monter le prix des produits.
Il faut faire monter le prix de produits qui n'ont pas les mêmes exigences sociales et environnementales.
Stéphanie, vous qui achetez des t-shirts chez Zara.
Il faut faire attention aux consommateurs néanmoins.
Et ah oui, mais veut. À un moment donné, ça sera plus cher. Enfin, c'est ça le... Le but, pour que les gens achètent moins, le signal prix, c'est quand même le mieux. Hein. J'écoute bien mon Jean-Marc Daniel tous les jours. En général, c'est ce qu'il dit.
Ouais, je suis plus sûre. Moi, j'ai l'impression que on est en train de revenir... vous savez, j'ai l'impression que la vie, je suis peut-être un peu plus vieille que les autres, mais j'ai l'impression que la vie, c'est un balancier. Voilà. Et que je l'ai vu dans mon travail. Hein, ça fait maintenant 40 ans que je bosse. Je l'ai vu dans mon boulot. Je l'ai vu dans ma vie perso. J'ai l'impression que la vie est un balancier. Qu'on est allé à un certain extrême et que là, on revient quand même un peu à plus de bon sens. Donc, beaucoup de médias nous ont dit la vraie vie, c'est d'acheter, c'est de foutre des plaques en polystyrène sur sa baraque pour l'isoler alors que ça empêche les maisons de respirer. On nous a raconté quand même n'importe quoi ces 10-15 dernières années. Et là, j'ai l'impression que, y compris le consommateur, revient à des bases en disant, il a compris que la fast fashion, ça allait vite et que c'était peut-être un peu sympa, mais que c'était pas forcément la qualité qu'il attendait. Il a compris que... moi, je suis plutôt très optimiste. Je suis un peu vous. Je suis un peu comme
quand vous voyez le nombre de colis à la poste, c'est vous-même qui l'avez dit, le consommateur.
Oui. Donc je suis très optimiste. Pourquoi? Parce que encore une fois, on est un pays dynamique. On l'a vu encore avec la victoire du PSG samedi soir. On a des jeunes qui sont talentueux dans tous les domaines. Faut juste, encore une fois, pardon, mais faut juste arrêter de nous en mettre plein la tête.
Dernier mot et après on parle de la TVA sociale.
Justement, pour faire une transition sur la TVA sociale, parce que vous disiez, est-ce que la seule solution c'est mettre des droits? Non, il faut aussi rééquilibrer notre structure fiscale qui aujourd'hui dissuade le travail et dissuade justement le fait d'être engagé dans ce mouvement de réindustrialisation. Et de ce point de vue-là, la question de la TVA sociale n'est pas une question simplement d'arbitrage entre différentes... un jeu de bonneteau pour aller financer...
Ça ne fait pas faire des économies, quoi. C'est des questions de silos qu'on met sur...
Mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est de savoir si, oui ou non, le travail paye. Est-ce que, oui ou non, on a des capacités de motiver nos salariés en ayant une marge de manœuvre pour augmenter les salaires sans qu'ils soient amputés à ce point là, d'une charge de financement de nos dépenses sociales. Et pour cela, il faut impérativement, si on relève la TVA, que l'on allège les charges de manière corollaire pour pouvoir rehausser les salaires. Mais rehausser les salaires, c'est pas uniquement du pouvoir d'achat, c'est de la motivation, c'est de la productivité, c'est faire reculer l'absentéisme qui est devenu record dans notre pays, et tous ces éléments-là font chuter l'entreprise France. Elle est peu productive parce que le travail n'est pas motivant, parce que nous le voyons bien et les chiffres et les statistiques le démontrent, le travail dans notre pays n'est pas aussi productif qu'il peut l'être ailleurs. Et bien pour qu'il le soit, il faut que le prix du travail remonte, et de ce point de vue-là, la TVA sociale...
Donc, on arrête avec la fast fashion, on passe à la TVA, TVA sociale. On a changé de sujet. Stéphanie Delesse, vous êtes pour ou contre la TVA sociale ?
Alors, j'ai pas d'avis là-dessus. Moi, je suis contre tout impôt, taxe, argent qui nous est pris, qu'on soit salarié, patron, retraité, chômeur, étudiant en plus. En fait, je ne comprends pas on ne parle pas d'économie dans ce pays. C'est-à-dire que dans n'importe quelle entreprise normale, si vous vendez un petit peu moins ou si vous avez un peu plus de concurrence, vous vous adaptez. Nous, on est dans une incapacité totale de s'adapter. Voilà. Après, là où je suis pas vraiment d'accord avec vous, Léonidas, c'est que j'en ai aussi marre qu'on nous dise que le travail, il est dur en France. C'est quoi cette mode des arrêts de travail, là? Ça vient d'où?
Excusez-moi,
du Covid. Non, mais du Covid. Oui, ça, voilà. Ah, donc, c'est une mode qui vient du Covid, parce que à un moment, pendant quasiment 2 ans, les gens étaient payés chez eux sans bosser. On adore tous. Moi, je suis désolée. J'ai commencé à travailler début des années 90. Le travail était beaucoup plus dur dans les années 90.
Mais vous, dans votre boîte, vous avez beaucoup d'arrêt de travail ?
Donc, non, j'ai pas d'arrêt de travail. J'ai pas d'arrêt de travail. Pourquoi ? Parce qu'on entame une vision, parce qu'on est sur un secteur porteur qui est l'intelligence artificielle, parce que aussi, je crois que mes collaborateurs, ils savent que je vérifie tout, que je suis. Mais ce que je veux juste dire, c'est qu'à un moment, on est, encore une fois, pardonnez-moi, je me répète, mais on est dans un des plus beaux pays du monde, d'accord ? Où la santé est gratuite. Comment on peut m'expliquer à moi qu'on est dans un pays où il y a le plus d'arrêts maladie ?
C'est le cas, voilà. Malheureusement.
Non, mais c'est
Stéphanie.
Le cas. Oui, bah, à un moment, c'est pareil.
Est-ce que vous ne pensez pas que si on rémunérait davantage de travail, il y aurait une plus grande...
Le problème,
grande
c'est qu'on trouve où, nous, l'argent, chef d'entreprise ?
Mais justement, c'est ça l'idée de la TVA sociale.
Non, c'est libérer baisser, de la cotisation. Oui, mais
c'est de faire
si...
baisser les cotisations
oui.
sociales.
D'accord.
En alors, retrouvant
oui, mais
une
si il y a de la TVA sociale qui génère un peu plus d'argent pour l'État et que l'État, à côté de ça, fait d'autres économies pour le réinvestir au meilleur endroit, ça ira. Et là, on va aller chercher de l'argent pour le mettre où ?
Pour le mettre dans quoi ? A priori, pour faire monter les salaires nets ou pour augmenter la compétitivité des boîtes. Benjamin Correa.
Non, moi, je suis plus que réservé sur la TVA sociale pour toutes les raisons qu'on connaît. En particulier, on a des expériences. Hein. L'histoire de baisser la TVA pour permettre d'augmenter les salaires. Demandez aux restaurateurs, vous allez voir. Bon, donc je veux dire, c'est n'importe quoi.
Là, c'était pour baisser les prix. Hein. L'objectif, c'était...
Oui, c'est pour baisser... Mais il n'y a rien d'automatique. C'est la même chose. La TVA pour les restaurateurs aussi, c'était pour faire baisser les prix. Ça a absolument rien baissé du tout. En plus, quand même... moi, je vous aime bien, hein, je veux dire, il n'y a pas de souci.
Mais les
dégrèvements de charges sociales, dans le cas de la France, depuis 1 SMIC jusqu'à 3 SMIC 2, aucun pays du monde n'est allé aussi loin. Alors, c'est vrai que nous, on a une protection sociale plus importante qu'ailleurs, mais enfin, il y a 80 milliards qui se baladent uniquement sur les dégrèvements sociaux. On va en rajouter encore. Bon, je crois que c'est pas sérieux. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, hein. Mais c'est tout à fait d'un autre côté qu'il faut chercher. Vous parliez de la sécurité sociale, qui est un sujet que je connais bien. Alors, on est revenu au trou abyssal de la sécurité sociale. Quand j'étais jeune, c'était un truc récurrent. Trou abyssal de la sécurité.
Là, c'est pire, oui. Bon, c'est la Cour des comptes n'a plus les mots.
Ça balance.
On ne sait plus quoi dire.
On est revenu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des problèmes, mais je veux dire, le coût de gestion de la sécurité sociale lié à la T2A, qui est un truc énorme, la T2A.
La T2A, je suis perdu.
Le paiement à l'acte. Bon, les hôpitaux sont payés aux actes qui passent. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire une incroyable bureaucratie pour codifier chaque acte. Si on refaisait de la vraie médecine, à savoir que un médecin, il a un type en face de lui à l'hôpital comme ailleurs, il a un type en face de lui et il fait ce qu'il croit devoir faire.
Mais grâce à l'IA,
il n'a pas un souci de codifier pour que ça rapporte à l'hôpital. On va faire beaucoup d'économies parce que la bureaucratie de la codification l'inflation va disparaître et les gens seront mieux soignés. Moi, quand j'étais jeune, j'ai écrit un livre sur Taylor. Bien. Taylor, il introduit quoi comme truc? C'est tout à fait notre sujet. Il introduit. Quelqu'un pense, quelqu'un d'autre fait quelque chose. Ça veut dire, il y a la bureaucratie des méthodes et il y a les gens qui travaillent. On a fait la même chose à l'hôpital. Quelqu'un pense, quelqu'un fait quelque chose. En l'occurrence, le médecin fait son travail en fonction de quelqu'un qui a pensé. Qu'est-ce qui rapporte le plus suivant les types d'affections? C'est là.
Mais ça me dit pas comment on libère du salaire net. Hein.
Comment?
Ça me dit pas comment on libère du salaire net parce que l'objectif c'est quand
même. Non, mais là je répondais à la question.
Oui.
Faut-il absolument augmenter le salaire net si on abaisse un certain nombre de prestations gratuites données par ailleurs, comme la santé, etc.
Non.
Moi, ça se discute, bien sûr.
Si vous discutez.
Pour moi, c'est plutôt non, mais il faut demander aux gens d'abord. Il faut demander aux gens.
Référendum. C'est un peu compliqué comme référendum.
Sous prétexte d'augmenter le salaire net, on veut supprimer des prestations gratuites.
Non, pas du tout.
Non.
On peut faire les deux.
C'est pas ce que vous dites.
C'est pas ce que vous dites.
C'est pas ce que vous dites, mais c'est ça qui va se faire.
Ah oui.
Parce que c'est ça qui va se faire. Donc, ayons le débat.
Bah, je voudrais revenir sur la TVA sociale parce que je ne vous rejoins pas. Et
oui, on n'est pas d'accord là-dessus, bien sûr.
Relation que nous avons.
Non, vous n'êtes pas obligé de vous battre à la fin de l'émission.
C'est la grande richesse de ce plateau.
Pas d'accord.
Vous pouvez avoir des désaccords avec beaucoup de convivialité autour de ce plateau. D'ailleurs, pour ce qui est de la contribution des entrepreneurs, je suis totalement certain que l'intelligence artificielle peut faire des progrès extraordinaires aux dépenses sociales dans notre pays. Pour la TVA sociale, je voudrais revenir sur les recettes nouvelles que l'on espère avec une TVA sociale. D'abord, faire contribuer les importations grâce à une ponction de TVA qui est dédiée aux dépenses sociales. Les importations aujourd'hui ne contribuent en rien à notre modèle social. Donc je pense que c'est un élément important. Ensuite, relèvement de la TVA suppose que cette part supplémentaire dédiée aux dépenses sociales soit également payée par les 100 millions de touristes que nous avons tous les ans. Donc il y a là des éléments supplémentaires. Ça contribuera grâce aux marges de manœuvre que l'on pourra avoir à redonner de la compétitivité à notre production, mais surtout à redonner du salaire net et donc de la motivation à nos salariés.
Mais oui, mais s'ils vont payer leurs produits plus cher.
Il y a des hommes et des femmes derrière. Oui, mais vous savez bien que quelques points de plus sur la TVA qui est
une fraction du tout,
prix. Ce n'est pas si vous rajoutez un point, deux points, trois points à la TVA, c'est pas un point, deux points, trois points au prix global du produit. C'est une règle mathématique que vous
c'est
connaissez.
C'est vous qui
le
dites, ça.
Et d'autre part, vous savez également que ce n'est pas sur les produits de première nécessité qui sont au taux réduit que l'on va mettre une TVA sociale. C'est sur le taux normal.
Donc non, pour le moment, c'est rien du tout. Non, je suis pas d'accord parce que vous faites une série.
Pas
non,
du tout. Mais... Là, vous n'êtes pas d'accord.
On n'est juste pas d'accord.
C'est que vous dites
il y a une série.
Non, vous êtes en train de dire, Benjamin. Les flux, on sait où ils vont aller, alors que Benjamin dit, on n'en sait rien.
Mais bien sûr, on ne sait rien du tout.
Benjamin dit... si on fait mal la TVA sociale, je suis contre la TVA sociale. Je suis d'accord avec vous.
Je suis contre la TVA sociale parce qu'on ne peut pas la faire bien.
Voilà. Je suis pour qu'on la fasse bien. Et si on la fait bien, je suis pour.
La question de savoir si vraiment les prix ne vont pas augmenter de manière stratosphérique et si vraiment ça va se retrouver dans les salaires nets, moi j'ai trouvé personne depuis 10 jours pour me l'assurer. C'est pas mécanique.
Attendez, d'une part.
Gilbert Sept est contre. Il était là la semaine dernière.
Attendez. D'une part, il y a ce que vous dites.
La tribune, justement, du dimanche dernier, favorable à la TVA sociale.
Si elle fonctionne bien, il n'en est pas sûr.
D'une part, il y a ce que vous dites, à savoir, pour les salariés, c'est pas du tout sûr que ça se retrouve. Mais d'autre part, les non-salariés, eux, ils sont battus dans tous les coups, parce que eux, ils vont retrouver ça nulle part. Ils vont juste payer la TVA sociale. Il n'y a aucun employeur altruiste qui va baisser leur salaire, puisqu'ils ne sont pas salariés.
Augmenter.
Vous avez raison.
En plus, sur leur
parce qu'ils ne sont pas salariés. Donc, je veux dire, il y a toute une série de non-salariés et qui sont nombreux, notamment les auto-entrepreneurs qui sont de plus en plus nombreux avec le recul du salariat pour des tas de raisons qui sont à la fois bonnes et pas bonnes. Bonnes parce qu'ils veulent retrouver de la liberté, pas bonnes parce qu'ils n'ont souvent pas d'autre choix. Eux, c'est les victimes de ça. Donc je veux dire, il y a beaucoup de raisons de se méfier du talisman de la TVA sociale.
Et après Stéphanie,
il y a tellement, tellement de raisons de ne pas être content de la situation actuelle.
Ah mais oui,
je trouve que les quelques raisons que vous donnez de ne pas être favorable à la TVA sociale ne pèsent pas très lourd.
Ça vaut le coup d'essayer, quoi.
Non, absolument. Parce que j'ai
ça
aussi...
vaut le coup de modifier une structure qui dissuade le travail quand vous avez 3 à 400 000 emplois qui ne sont pas pourvus dans notre pays parce que, à l'évidence, les revenus socialisés valent au moins autant que le revenu du travail.
C'est
aussi une manière de revaloriser le travail.
C'est pas seulement les revenus,
Stéphanie, que va pouvoir faire
l'assistance ne soit pas
Stéphanie, que va pouvoir faire l'intelligence artificielle pour aider à retrouver un petit peu d'air dans nos finances publiques?
Alors moi je pense énormément. Je pense qu'on pourrait être le jour d'un big bang justement de nos investissements en France, et qu'en fait, il se passe rien. Moi, j'avais envie de poser une question à Benjamin. Je vais juste terminer. Par exemple, l'hôpital. L'hôpital, vous l'avez dit, moi, j'ai découvert qu'il y a des hôpitaux publics, je ne connais pas dans le privé, mais c'est certainement la même chose. Il y a des hôpitaux publics où 50% du personnel sont des personnels administratifs. Administratifs au sens large.
Mais c'est la raison.
Les secrétaires, la cantine, le livreur, le machin, le bidule. 50%.
Oui.
D'accord? Moi, ma mère, elle a fait un AVC. Aujourd'hui, elle est paralysée parce que les pompiers sont pas venus en temps et en heure, parce qu'à l'hôpital, ils avaient pas d'eau gazeuse pour l'hydrater, bon, etc., etc. On marche sur la tête.
Oui.
L'IA, aujourd'hui, elle peut faire baisser ce taux-là, mais dramatiquement. Je fais exprès de dire dramatiquement, parce qu'il y a une question d'emploi derrière aussi.
Oui.
Mais de plus de 50%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une carte vitale, il suffirait d'arriver à l'hôpital, on la met devant la borne, on n'a pas besoin d'avoir quelqu'un qui nous prend la carte vitale.
Écoutez, la réponse
est
oui.
L'école, pareil.
Oui, non mais attendez, on va rester sur l'hôpital.
Oui.
On va rester sur l'hôpital parce qu'on a une expérience.
Mm-hmm.
Et l'expérience, c'est celle du Covid.
Mm-hmm.
Lorsqu'il y a eu le démarrage du Covid, avec donc cet afflux de malades qui a inquiété tout le monde, y compris l'hôpital. Y compris nos patients, nos médecins et nos infirmières, etc., n'avaient pas de masque. Mmh. Vous vous rappelez de l'épisode des masques. Comme on n'avait pas de masque, on a expliqué que ce n'était pas nécessaire. Ben, vous savez ce qui s'est passé dans beaucoup d'hôpitaux? Le personnel soignant a dit à l'administration, maintenant ça suffit. Mmh. Nous, on veut bien les soigner.
Absolument.
Prendre le risque de les soigner, d'accord?
Mais on prend le pouvoir.
Mais vous, dehors, on vous dit ce dont on a besoin.
Donc,
et on a besoin de 8 lits supplémentaires là, on a besoin de réanimateurs là, etc. Et vous vous exécutez. Et ils se sont exécutés.
D'accord. Donc Benjamin...
Et attendez, je finis juste. Le Covid, la phase initiale du Covid, on y a fait face parce qu'on a mis de côté cette bureaucratie. Et on s'est jamais mieux porté d'une certaine manière. Donc, oui, il est possible de réduire drastiquement une partie de la bureaucratie d'hôpital, celle qui gère absolument tout, contre les médecins, contre les traitements, contre les soignants. C'est une aberration.
Mais vous estimez, Stéphanie, qu'on peut faire combien d'économies? C'est-à-dire que sur le
mais moi, je dis toujours, ça fait rire mes collègues ou mes amis entrepreneurs. Moi, je dis... c'est un peu de dur. Mais peut-être, avec Benjamin et Léonidas, vous nous mettez au gouvernement. Moi, je vous trouve 200 milliards. Mais quoi? Mais oui, mais ça fait rire. Parce que vous êtes personne ne met de chiffres, plus personne n'a le courage de faire.
Comment? Vous êtes plus efficace que Musk, quoi. C'est
non, mais que... non, non pas mais en virant que... les gens, mais en trouvant des solutions.
Exactement.
Qui sont
mais oui, c'est ça.
En virant les gens,
en se basant sur l'expérience.
Moi,
sur l'hôpital, je me base sur l'expérience du Covid.
Voilà. Donc, Benjamin, moi, j'avais envie de vous poser une question, puisque nous, moi, je les vois tous les jours, les économies possibles, et sans dégrader. Parce que pour moi, c'est en conservant l'emploi, voire même en rajoutant.
Comment vous conservez l'emploi? Je ne comprends pas.
Par exemple, les arrêts maladie, ça nous coûte combien? Les retraites, il y a peut-être des petites choses à faire sur les retraites. Quand moi j'ai payé mes impôts, là, il y a un beau diagramme là, donné par le fisc qui nous explique que il y a des cases. Alors il y a des cases, on nous met le poids des retraites, le poids de l'hôpital, le poids de l'éducation, le poids du sport, etc. Des choses comme ça. Puis là, on voit un énorme carré.
Un énorme.
Voilà, il y a peut-être des choses à faire là aussi, parce qu'encore une fois. Pardonnez-moi de le rappeler, mais ce qu'a fait le PSG, c'est quoi? Pourquoi tout le monde s'est enthousiasmé samedi soir? C'est juste, c'est le symbole du succès et de l'engagement de la jeunesse française. Et alors, pas seulement française, mais aussi des étrangers qui travaillent en France, parce qu'on peut être footballeur. Bon voilà. Donc en fait, cette jeunesse, elle est juste extraordinaire, incroyable. Donc en fait, moi encore une fois, Benjamin, je vous dis, qu'est-ce qui bloque? Parce que là, on a parlé pendant quasiment 45 minutes de la TVA sociale, qui est pour moi...
Ah non, on a fait la fast fashion.
Non, non, pas vrai. Oui, mais la fast fashion, la TVA sociale, tout ça, c'est ce qu'on va nous faire payer en plus. Alors, pour le coup, je reviens soit aux salariés, soit aux retraités, soit aux chômeurs, à l'étudiant, etc.
Stéphanie,
pourquoi on ne parle jamais d'économie?
Mais moi, je peux revenir la semaine prochaine et je vous donne 10 pistes d'économie.
Ok, année blanche, on est une ou pas?
Oui, oui.
L'année blanche, c'est une bonne piste.
Non,
ou
mais l'année blanche.
C'est l'objectif qu'on se donne pour.
C'est un mot marketing.
Voilà, c'est-à-dire on n'augmente pas, quoi.
Oui, mais enfin, globalement,
on veut moins. Tous les Français veulent moins et mieux. C'est facile.
Mais ils veulent mais moins, mais sur les autres. Hein. Ils veulent certainement pas dans leur petite
niche. Parce que ça, c'est parce que c'est notre côté.
Vous avez les taxis.
Franchouillard. Oui, bien sûr. Mais après, les taxis, ils sont intelligents comme tout le monde. Ils savent très bien que, comme l'a dit peut-être François Bayrou, faut que tout le monde s'y mette, y compris les taxis. Mais à un moment, il faut arrêter de nous faire payer tout le temps. Ça nous arrête dans notre entrepreneuriat.
Dont le métier principal est justement
le transport,
le transport de malades, qui m'a expliqué tout ce qu'il faudrait faire, qui satisferait les chauffeurs de taxi et qui ferait des économies. À l'hôpital. Et je lui dis, mais alors, et pourquoi vous n'allez pas proposer ça? Il dit, mais qui m'écouterait?
Exactement.
Voilà. Et j'étais stupéfait parce qu'il avait une solution. Il dit, moi, c'est mon métier, hein.
Voilà.
Donc je suis pour.
Voilà.
Je suis pour ce que je vous propose.
Voilà. Exactement.
Et ça fait des économies énormes.
Non, mais il est clair qu'il y a non seulement des économies de rabot, parce que l'année blanche, c'est juste la théorie du rabot.
Hein. Oui.
C'est la théorie du rabot de l'inflation. On rabote l'inflation sur toutes les dépenses actuelles.
1,6 inflation pour l'année prochaine.
1,6 et ça vous fait l'année blanche. Bon, donc le rabot, c'est une chose, et je comprends que, d'ailleurs vous aviez raison, quelle est l'entreprise qui a une baisse de revenus, qui n'est pas capable de serrer un peu la vis sur ses frais généraux? À l'évidence, l'État a du mal à le faire. Mais en revanche, là où je suis totalement à l'écoute de ce que dit Stéphanie, il faut se tourner vers les entrepreneurs, se tourner vers les gens qui ont la vie du terrain entre leurs mains, c'est le cas effectivement des taxis pour les transports médicalisés, et leur demander des solutions. Il faut quand même reconnaître que nous avons un gouvernement et une technocratie et une bureaucratie qui n'écoutent que ces tableaux Excel et qui n'écoutent absolument pas les solutions qui viennent des entrepreneurs et de la nation.
Il y a vraiment
là une espèce de d'autisme où l'État s'est recroquevillé sur lui-même et où il cherche en lui-même, auprès de la technocratie, auprès des tableaux Excel, les solutions.
Ouais, ouais.
Non, il y a des choses qui doivent être repensées. Et moi, je suis absolument persuadé, comme vous, que le pays est prêt. Et que ce qui n'est pas prêt, c'est effectivement une machine étatique qui a énormément de mal à bouger et à regarder le monde différemment, alors que les solutions qui viennent des entrepreneurs, ne serait-ce que l'intelligence artificielle dans les organisations, ce serait probablement une source d'économie magistrale.
Ça, il faut en parler. Le bing-bang de l'intelligence artificielle, quel peut être
dans
l'impact positif pour notre pays?
Benjamin, il reste 30 secondes sur l'année blanche.
Non, moi je pense que c'est un gadget. Ça veut dire que ça nous amène nulle part, parce qu'il y a une série de modifications qui doivent être faites, aussi bien dans les recettes que dans les dépenses. Donc utilisons notre énergie à mettre en place des structures délibératives dans lesquelles on a des vrais professionnels compétents. Voilà, moi je préfère mille fois ça à l'année blanche, parce que là on gagne une année au lieu de la
perdre. Mais avec un peu de TVA sociale pour rééquilibrer et pas avoir...
Non mais ça on sera pas d'accord.
Non, c'est pas le débat, c'est fini.
On sera pas d'accord.
Mais dissuade le travail.
Mettons face les parties prenantes et on trouvera une solution.
Vous allez pouvoir continuer dans le couloir à vous écharper sur la TVA sociale. Merci à tous les trois d'avoir accompagné aujourd'hui dans Les Experts. Demain, Isabelle Mathéos-Hilago, Emmanuel Combes et Denis Ferrand. Dans un instant, sur BFM Business, Marie-Cœur de Roy et les experts de l'immobilier. À demain.
Les Experts, débat et controverses sur BFM Business.